1914, est venu en cette chapelle, qui n'était pas encore une chapelle, déposer une statue de la Vierge Marie, statue qu'il avait achetée quelques années auparavant à Paris. Et donc il m'a été demandé de vous parler, comme introduction à cette journée, de vous parler de la grâce du lieu, quelle est la grâce spécifique que nous pouvons demander à Notre-Dame-des-Bois. Et c'est une question évidemment un peu déroutante, parce que je dirais que c'est à chacun d'y répondre. Chacun a une relation personnelle avec la Vierge Marie et par la Vierge Marie avec Jésus. Et de même qu'une mère de famille, eh bien, a une relation unique et irremplaçable avec chacun de ses enfants, et donc que chacun de ses enfants a une relation unique avec la mère, eh bien nous-mêmes, nous avons une relation unique avec la Vierge Marie, et si nous sommes des habitués des lieux, eh bien avec Notre-Dame-des-Bois. En tout cas, ce que je peux dire en tant que supérieur, c'est qu'évidemment, Notre-Dame-des-Bois est pour notre congrégation un lieu source. Puisque donc le 9 septembre 1909, le Père Lamy accueille donc une double demande de la Vierge Marie, alors qu'il célèbre la messe à la basilique Notre-Dame-de-Grès, à quelques dizaines de kilomètres d'ici. Il reçoit donc une double intuition, une double demande, celle de fonder le pèlerinage de Notre-Dame-des-Bois et celle de fonder aussi une congrégation qui puisse se dévouer d'une manière toute particulière à l'évangélisation et à l'éducation de la foi des jeunes. Et vous l'aurez remarqué, donc cette demande date de 1909, la fondation du pèlerinage 1914, la fondation de la congrégation 1930. Ce qui signifie, et cela doit nous rassurer, que l'œuvre de Dieu met toujours un petit peu de temps à se réaliser, mais qu'elle se réalise. Et puis je dirais que c'est aussi un lieu source pour la paroisse, parce que le Père Lamy, en raison des aléas de sa vocation, donc il a passé toute une première partie de sa vie comme religieux, puis comme prêtre à Troyes, puis il s'est mis au service du grand diocèse de Paris, en étant vicaire à Saint-Ouen, puis curé de la Courneuve. Donc très vite, il a dû être, comme on dit, incardiné dans le diocèse de Paris, appartenir à la famille diocésaine et au presbytérium de Paris. Mais comme vous le savez, il a gardé, je dirais, un attachement, lui qui est un homme de la terre, il a gardé un attachement très, très viscéral, si je puis dire, à cette terre, à ce diocèse et à cette région. Et voilà pourquoi, donc, il a eu le souci, il a eu ce désir de valoriser ce lieu où il n'y avait pas, justement, de sanctuaire marial. Nous rappelons aussi qu'à partir du moment où il a pris sa retraite à la maison de retraite des prêtres du diocèse de Paris, l'infirmerie Marie-Thérèse, eh bien, il partageait son année entre le temps qu'il passait en ce lieu et puis les mois d'été où il se trouvait ici, en Haute-Marne. Alors, nous voulons, et puis nous savons aussi, lorsque nous lisons le témoignage recueilli par le comte Bivert, nous savons aussi combien il a été marqué par cette terre, spécialement pour son éducation chrétienne. L'éducation qu'il a reçue non seulement par sa famille, par ses propres parents, mais aussi par son village et sa paroisse, au point qu'il avait d'abord songé à entrer au grand séminaire de Langres. Donc vraiment, cet attachement, malgré les aléas de son ministère et les différentes régions et paroisses où il a eu à exercer son ministère, mais il est toujours resté dans l'âme, dans le cœur, un Haut-Marnais. Alors nous voulons être les fils du Père Lamy, ses disciples comme serviteurs de Jésus et de Marie, mais après tout ce titre de serviteur de Jésus et de Marie, eh bien il est le fait de tout chrétien. Alors le Père Lamy a résumé le tout, toutes les grâces que nous pouvons accueillir ici, que nous pouvons réussir ici, il l'a fait sous la forme de trois exigences qui nous ont été rappelées, le silence, la pureté et la prière. Et je dirais que ce sont trois attitudes de l'âme, trois vertus, trois caractéristiques, trois dons, trois grâces à demander, peuvent nous aider pour notre vie de chrétien. Voilà pourquoi je vous proposais une petite méditation en trois temps. D'abord, justement, revenir sur chacune de ces valeurs, hein, un lieu de notre âme des bois, un lieu de silence, un lieu de pureté et un lieu de prière, pour ensuite voir comment nous pouvons vivre justement cette joie de l'Évangile, puisque la pureté, le silence, la prière sont au service de la mission de l'Église, donc aussi que nous ayons à demander une grâce missionnaire. Et voilà pourquoi, donc, dans ce deuxième point, dans cette deuxième partie, je m'inspirerai du grand texte du pape François sur la nouvelle évangélisation, comme justement communication de la joie de la bonne nouvelle. Voilà, vous voyez, je vous avais annoncé trois points, en fait, il y en a deux. Alors, première partie, donc un lieu de silence, de pureté et de prière. Vous aurez sans doute été frappé par la simplicité de ces expressions. Et je dirais que ce sont trois qualités mariales. Hein, ce ne sont pas des grandes œuvres qui nous sont demandées, mais peut-être que le bon Dieu, dans sa providence, nous demandera de réaliser de grandes œuvres. Mais ce qui compte avant tout, c'est justement la qualité de l'âme avec laquelle nous réalisons notre devoir d'État. Et parfois, nous pouvons être fatigués ou découragés face aux résistances que rencontre l'Évangile aujourd'hui, face aussi aux résistances que rencontre l'Évangile dans notre propre cœur. Mais il n'empêche que ces trois qualités, justement, elles nous sont accessibles. Et donc, nous venons chercher auprès de Notre-Dame des Bois, nous venons en quelque sorte justement reprendre souffle pour poursuivre notre chemin et accomplir notre vocation. Enfin, à moins que nous ayons une vocation très, très spécifique d'ermite et de nous installer dans ces bois, mais je pense que la plupart d'entre nous, nous avons vocation, après cette journée, à revenir dans nos quartiers, dans nos maisons, dans nos villages, sur nos lieux de travail, sur nos lieux d'engagement sociaux, professionnels, caritatifs, revenir à nos services d'église, que nous puissions repartir de Notre-Dame des Bois justement avec cette grâce d'intériorité, cette grâce de silence, de pureté et de prière. C'est peut-être la première grâce que nous devions demander, c'est justement d'avoir plus de courage pour poursuivre notre pèlerinage sur la terre, un peu à l'image de ce que certains d'entre nous avons vécu hier soir avec cette démarche de pèlerinage depuis Grosse Sauve jusqu'à cette chapelle, en passant comme à la fontaine, comme lieu de purification. Alors, première valeur, donc le silence, je dirais que tout nous y porte ici, même si aujourd'hui nous connaissons une certaine affluence en ces lieux. Si vous avez l'habitude, comme beaucoup d'entre nous, de passer régulièrement ici, c'est évidemment d'abord la valeur de silence qui nous y porte. Et les paysages traversés nous y conduisent aussi. Le silence, c'est justement l'attitude de l'accueil et de la foi. Durant ces quelques jours, avec certains d'entre vous, grosse journée de 36 heures de retraite spirituelle chez les sœurs de Saint-Loup, nous avons pu méditer sur... au fond, qu'est-ce qui constitue le trésor de la vie chrétienne? C'est les vertus théologales, c'est la foi, l'espérance et la charité. Ce sont les fondements de toute vie chrétienne. Mais je dirais que, justement, ces vertus surnaturelles qui nous sont données par Dieu, s'épanouissent d'autant plus que nous les accueillons, que nous les quémandons dans un cœur qui est vraiment silencieux. C'est le silence qui est... l'attitude de l'accueil, l'attitude de celui qui attend tout de Dieu, qui attend tout de son maître et qui se rend aussi disponible pour répondre à sa vocation, pour obéir à la volonté de Dieu, dès que cette volonté lui est manifestée. Mais encore une fois, pour que nous puissions entendre la parole de Dieu, eh bien, il faut que nous puissions l'accueillir dans un cœur silencieux. Puisque, pour reprendre l'expression de Saint Jean de la Croix, Dieu parle toujours dans un éternel silence. C'est évidemment l'attitude de la Vierge Marie au matin de l'Annonciation. Et le fait de nous tenir en silence devant Dieu, eh bien, nous aide à ne pas murmurer contre lui. Nous sommes toujours des éternels insatisfaits, non pas. Alors, il y a une bonne insatisfaction. La bonne insatisfaction, c'est de se dire que seul Dieu peut combler notre cœur. Et donc, tant que nous sommes sur cette terre, eh bien, rien ne pourra nous satisfaire. Nous sommes toujours, nous portons toujours en nous d'une exigence, du toujours plus de la grâce. Ça, c'est une bonne insatisfaction. Et puis, il y a une mauvaise insatisfaction, c'est lorsque nous nous comportons comme des enfants gâtés, que nous sommes des éternels grognons, ronchons, et que donc nous murmurons contre la volonté de Dieu. Alors, vous me direz qu'il vaut mieux être grognon et faire la volonté de Dieu que d'être toujours tout sourire et de ne pas la faire. Mais enfin, si on peut être toujours tout sourire et faire la volonté de Dieu, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Parce que le murmure dans la Bible nous conduit justement à l'endurcissement du cœur. Et c'est cet endurcissement qui nous rend incapables d'écouter, voire d'entendre la parole de Dieu. C'est l'incrédulité, c'est le manque de foi. De croire que, par exemple, Dieu ne peut plus rien faire dans notre vie, dans la vie personnelle de chacun d'entre nous, mais aussi dans la vie de nos communautés paroissiales, de nos communautés religieuses. Et donc, nous devons apprendre de Marie à accueillir dans le silence la miséricorde de Dieu qui fait en nous des merveilles. Hier, dans la fête de l'Annonciation, nous avons médité le Magnificat. Eh bien, c'est le fait pour la Vierge Marie d'avoir accueilli dans la foi la parole de Dieu qui l'a fait exulter sous l'action du Saint-Esprit. Personne comme elle n'a conscience du péché qui habite ce monde, du mal, du refus d'aimer. Elle qui en souffrait, si je peux dire, au tout premier rang, juste après son fils. Et pourtant, qu'est-ce qui jaillit de son cœur? C'est le Magnificat. Parce que les œuvres de Dieu, les merveilles de Dieu s'accomplissent. Et Dieu est toujours vainqueur, et il est vainqueur aussi de l'endurcissement de notre cœur. Alors, pour laisser nos cœurs se toucher par la grâce de Dieu, eh bien, nous devons demander une grâce de silence. Alors, n'ayons pas peur de nous présenter tel que nous sommes à la miséricorde, de présenter à Dieu par les mains de Marie toute notre vie, avec ses ombres, mais aussi ses lumières, ses grâces, ses pesanteurs et ses douceurs. Le Père Lamy disait, la Vierge Marie ne critique jamais, elle montre, non pour accuser, ça c'est le rôle du démon, le démon se tient devant Dieu comme l'éternel accusateur des hommes. Non, mais elle nous indique toujours un chemin d'exigence et de conversion. Ce sont les paroles mêmes qu'elle dit à Cana, au serviteur de la noce, faites, en désignant Jésus, faites tout ce qu'il vous dira. Alors peut-être que si nous maintenons durant cette journée nos cœurs dans un grand silence, eh bien, non seulement nous entendrons la Vierge Marie nous dire, faites tout ce qu'il vous dira, mais nous aurons la grâce, effectivement, pour accomplir comme elle, toujours, la volonté de son Fils. Deuxième qualité d'âme que nous pouvons demander, c'est la pureté. Tout est pureté dans la Vierge Marie, car elle n'est que pour Dieu. Elle est entièrement consacrée à la personne et à l'œuvre de son Fils, le Rédempteur. Eh bien, fondamentalement, radicalement, la pureté, c'est d'abord cela. C'est d'être entièrement tournée vers Dieu, sans que nulle trace d'égoïsme subsiste en nous. L'impureté consiste à soustraire quelque chose de notre vie à Dieu. Quand nous regardons déjà dans la Bible, le péché originel, c'est évidemment l'impureté dans toute sa splendeur, non, parce que dans toute son horreur, c'est-à-dire lorsque la créature se soustrait volontairement à l'autorité de Dieu. Parce qu'elle ne fait plus confiance. Voilà, la victoire du démon, c'est de tuer dans le cœur de l'homme la confiance à l'égard de Dieu. Et toute l'œuvre de Dieu, dès ce premier péché qui nous valut à la fois tant de difficultés, tant de misère, mais qui nous vaut aussi un tel sauveur, un tel rédempteur, et qui nous vaut aussi Marie, puisque c'est de sa descendance que naîtra celui qui écrasera la tête du démon, du serpent. Et bien donc nous demandons donc cette grâce d'être toujours vainqueur de cette impureté qui soustrait l'homme à l'autorité de Dieu. Au fond de chaque péché, quel qu'il soit, c'est ce que nous trouvons. Toujours cette volonté de savoir mieux que Dieu lui-même ce qui est bon pour nous. Alors depuis notre baptême, nous sommes consacrés à Dieu, nous lui appartenons de nouveau. Il n'y a en nous, comme en Jésus, normalement il ne devrait rien avoir de sécularisé. Rien en nous ne doit échapper à l'influence du Saint-Esprit, puisque justement le Saint-Esprit nous a été communiqué au cœur de notre cœur pour irradier tout notre être. Et toute la conversion chrétienne consiste justement à laisser cette bonne influence du Saint-Esprit gagner toute notre existence. Alors notre conversion quotidienne, et c'est aussi la grâce qu'il faut demander ici, consiste à faire converger, à tout faire converger de notre humanité vers le Christ. Y compris, alors non seulement notre intelligence par la foi, notre volonté par la charité, par l'espérance, mais aussi notre affectivité, tout ce qui est de notre sensibilité, et bien tout cela aussi, qui en soi n'est pas mauvais, mais notre sensibilité, notre affectivité, a besoin d'être purifié, d'être redressé et d'être orienté. Il y a en nous comme une force de vie considérable, et bien que nous mettions cette force de vie au service du Christ et au service de l'Évangile. Et pour cela, comme le péché originel et ses conséquences a introduit en nous comme un éclatement, eh bien nous avons besoin du silence et nous avons besoin de la pureté pour recentrer toute notre existence sur le Christ lui-même. Vous savez que le Père Lamy, comme curé des jeunes, a été confronté à constater combien l'impureté pouvait fermer à la miséricorde et justement provoquer l'endurcissement des cœurs, parce que petit à petit, on doute justement dans la miséricorde de Dieu. Mais ce qui manifeste le Père Lamy, c'est son respect pour les âmes. Même si lui-même était naturellement quelqu'un d'un peu rude, il n'empêche que dans son contact avec les âmes, et c'est quelque chose qu'il a appris de la Vierge Marie, il se montrait toujours d'un infini respect, parce que chaque âme avait valu le sang très précieux du Seigneur Jésus-Christ et les larmes de la Vierge Marie. Et bien que nous ayons aussi, dans la manière de nous aborder les uns les autres, ce même regard de respect et de pureté. L'impureté, c'est aussi instrumentaliser l'autre, que ce soit son corps, que ce soit son âme, et bien que nous ayons à cœur d'apprendre de la Vierge Marie, comme le fit le Père Lamy, et bien le respect pour les personnes. Et cela est vrai pour les âmes consacrées, cela est vrai aussi pour les couples et les familles, pour les jeunes et les moins jeunes, hein, qu'ils puissent donner aujourd'hui un témoignage lumineux de pureté, c'est-à-dire de don total d'eux-mêmes à l'amour qui vient de Jésus et de Marie. Et donc c'est une grâce que nous demandons pour nous et pour tous les jeunes qui nous sont confiés, puisque vous savez sans doute que notre apostolat spécifique, nous serviteurs de Jésus et de Marie, est justement de travailler à l'éducation de la foi des jeunes. Troisième attitude, parce que tout cela, la pureté, le silence, nous conduisent normalement à la prière. Et c'est justement aussi la prière qui nous obtient une grâce de silence et d'amour. Tout cela doit nous conduire donc tout à la fois à la pureté et à la pauvreté du cœur, la première béatitude, celle qui nous rend tout disponible à vivre tout le reste du discours sur la montagne. Nous sommes peut-être parfois un peu effrayés quand nous méditons les chapitres 5 à 7 de saint Matthieu, donc le discours sur la montagne. Nous pouvons être effrayés par les exigences qui, si je puis dire, en rajoutent encore par rapport à l'Ancien Testament. Alors, déjà que nous avons bien du mal à vivre les 10 commandements, et puis on nous dit que ça, c'est vraiment le minimum minimorum, hein, c'est vraiment la barre qui est mise très bas, et qu'on est invité à un au-delà. Seulement, nous devons nous rappeler que c'est une grâce qui nous est accordée. D'abord, le discours sur la montagne ne font que décrire Jésus-Christ lui-même, la sainteté de Jésus-Christ. Et cette sainteté de Jésus-Christ nous est communiquée. Et c'est parce que nous nous appuyons sur la grâce, c'est-à-dire sur l'aide que Dieu nous apporte, par la prière, par les sacrements, que nous pouvons vivre à notre tour ces exigences de l'Évangile. Nous prenons sur nous le joug du Seigneur et nous découvrons que ce joug est un joug léger parce que nous sommes comme soutenus, comme portés par la grâce du Seigneur. Mais la grâce du Seigneur, elle ne vient habiter qu'un cœur silencieux et pur. Alors ce lieu nous pousse à la prière, et je dirais que c'est peut-être la grâce la plus fondamentale de Notre-Dame des Bois, et c'est aussi la grâce que nous devons demander pour toute notre vie. Le Père Lamy a insisté à temps et à contre-temps, quels que soient ceux à qui il s'adressait, sur l'importance de la prière, c'est-à-dire la primauté de la vie spirituelle, de notre relation à Dieu. Alors, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, la relation à Dieu, la relation au Christ est unique. C'est à nous de trouver les moyens de nous enraciner dans la prière. Mais voilà, il y a les grands moyens que nous donne l'Église, l'oraison, la lectio divina, c'est-à-dire la lecture priante de la parole de Dieu, les écrits des saints, et évidemment le rosaire, la prière du chapelet. C'est une prière toute simple, mais qui nous fait non seulement méditer les mystères de la vie de notre Seigneur et de la Vierge Marie, mais qui nous accorde à chaque fois une grâce, justement, pour vivre ces mystères. Mais je dirais, voilà, ce qui caractérise la vie spirituelle, c'est la liberté. C'est à nous de trouver notre chemin. Tout cela n'a de valeur que de moyens, de chemin, justement, pour nous conduire à l'esprit de prière. Et lui-même, donc je reviens au Père Lamy, mais par sa prédication, par son exemple d'abord, n'a cessé de former et d'éduquer les âmes à la prière. Je dirais que dans les temps difficiles, ce sont justement ces âmes qui tiennent, parce qu'elles intercèdent pour les autres, pour tous les frères et les hommes. Le monde tient par la prière des contemplatifs, mais aussi de toutes les âmes qui sont totalement données à Dieu. Et puis, aussi ces âmes, dans l'invisible, regroupent les plus faibles, ceux qui sont toujours tentés de se décourager. Le monde tient par la prière. Et justement, dans les quelques moments de découragement qu'a connu le Père Lamy, il a eu vous savez, cette parole, cette locution interne de la Vierge Marie qui lui disait, lui qui était un peu tenté de se plaindre, et elle lui a dit, il a entendu la Vierge Marie lui dire, « Et moi, je suis toujours sur la brèche. » Même après son Assomption, alors qu'elle est maintenant avec son corps et son âme dans la gloire de Dieu, eh bien, elle est de tous les combats des chrétiens. Et dans l'histoire de l'Église, elle a toujours été invoquée comme le secours des chrétiens, le rempart très sûr qui protège notre foi et qui nous donne justement de lutter contre le pire ennemi de nos âmes, à savoir le découragement. Alors demandons cette même grâce puisqu'elle intercède pour les pécheurs et pour nous obtenir les grâces dont nous avons besoin. La Vierge Marie connaît nos nécessités pour notre salut et donc nous demandons la grâce d'une prière fidèle, constante et fervente. Voilà, alors pour conclure cette partie, vous aurez noté que le silence, la pureté, la prière, ce sont trois attitudes spirituelles qui sont celles de Marie, et je dirais qu'ils nous sont communiqués ici. Cependant, nous ne pouvons demeurer, nous devons, comme je le disais tout à l'heure, reprendre souffle, nous ressourcer et repartir pour notre mission, un petit peu comme les disciples après cette expérience extraordinaire sur le mont Tabor, où ils ont vu le Christ transfiguré, eh bien, ils ne restent pas sur le mont Tabor, même si Saint-Pierre l'aurait voulu, il est bon que nous soyons ici, de restons trois tentes. Non, ils doivent repartir pour accompagner le Seigneur Jésus, qui, à ce moment-là, prend la route de Jérusalem pour y vivre le mystère de sa passion très sainte, du grand combat qu'il va mener contre le démon et les forces du mal pour notre libération et pour le don de la vie éternelle. Alors ben voilà, nous repartons de Notre-Dame des Bois avec plus de courage pour accompagner le Christ qui va offrir sa vie, d'abord dans le sacrement de l'Eucharistie, ce que nous allons vivre dans un instant, donc ce sacrement de l'Eucharistie qu'il a institué au soir du Jeudi Saint, célébrant avec ses disciples la Pâque, et qui est comme une anticipation, une annonce prophétique de ce qu'il va vivre le lendemain, c'est-à-dire sa vie offerte en sacrifice pour le pardon de tous nos péchés. Alors le Père Lamy était le protégé de la Vierge Marie, l'homme de l'Eucharistie et de la mission. Tous les contemporains ont toujours été très frappés de la manière du recueillement, du silence avec lequel il célébrait la Sainte Messe. Et puis la mission du Père Lamy, ce qui lui a valu aussi de se rapprocher de Jésus sur la croix, a été donc la fondation de la congrégation qui, dans un premier temps et après un échec qu'il a ressenti de façon très, très douloureuse et très violente, eh bien donc pour lui a été véritablement un véritable chemin de croix. Alors il disait, le Père Lamy disait qu'il fallait toujours repartir de notre âme des bois avec une résolution un peu forte, un peu courageuse. Voilà. Alors d'où justement ma deuxième partie, avec Marie, annoncer la joie de l'Évangile. Si nous pouvions demander la grâce d'être, c'est une suggestion en tout cas, mais dans notre ferme propos d'annoncer le Christ par notre vie, eh bien, ce serait, je crois, que nous n'aurions pas perdu notre journée. Même si, évidemment, je n'oublie pas toutes les intentions que vous portez dans votre cœur et que, en tant que communauté paroissiale et religieuse, nous portons, donc toutes les intentions parfois douloureuses, parfois angoissantes que vous pouvez porter. Alors, avec Marie, donc, vivre la joie de l'Évangile. Et je m'inspirerai de la dernière partie de l'exhortation apostolique du pape François, la joie de l'Évangile, où justement il va, comme souvent à la fin des textes pontificaux, mais il va focaliser son attention sur la Vierge Marie. Et il va montrer comment la Vierge Marie est pour chacun d'entre nous le modèle même de la mission. C'est d'autant plus intéressant que la Vierge Marie n'est pas apôtre. Elle ne participe pas au ministère apostolique, je dirais, direct. Mais elle est la reine des apôtres. Elle est le modèle même des disciples du Christ. Elle est au cœur de l'évangélisation. Même si elle n'assume pas une part visible de cette évangélisation dans les tout premiers temps de l'Église, nous la voyons au milieu des disciples attendant le don du Saint-Esprit. Et elle est cette présence priante et suppliante dans l'Église qui attire sur cette Église les grâces dont elle a besoin pour la fécondité de sa mission. Voilà comment ce n'est pas parce qu'on n'a pas une activité visible dans l'Église qu'on n'est pas justement au cœur de son mystère. Alors, et pourquoi la Vierge Marie est au cœur du mystère de l'Église en tant qu'envoyée en mission? Eh bien, c'est justement d'abord parce qu'elle brûle du mystère de Dieu. Elle ne vit que pour et par Jésus. Et c'est justement la grâce que nous devons demander dans la prière. Voilà, je vous lis un premier extrait du pape François. C'est le numéro 264, donc tout à fait à la fin de l'exhortation apostolique. La première motivation pour évangéliser est l'amour de Jésus que nous avons reçu. L'expérience d'être sauvés par lui nous pousse à l'aimer toujours plus. Mais quel est cet amour qui ne ressent pas la nécessité de parler de l'être aimé, de le montrer, de le faire connaître? Si nous ne ressentons pas l'intense désir de le communiquer, il est nécessaire de prendre le temps de lui demander dans la prière qu'il vienne nous séduire. Alors pourquoi pas demander à la Vierge Marie cette grâce en ce lieu, elle qui a été séduite par Dieu et donc qui l'a annoncée. Nous avons besoin d'implorer chaque jour, de demander sa grâce pour qu'il ouvre notre cœur froid et qu'il secoue notre vie tiède et superficielle. Placés devant lui le cœur ouvert, nous laissant contempler par lui, nous reconnaissons ce regard d'amour que découvrit Nathanaël le jour où Jésus se fit présent et lui dit « Quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu ». La meilleure motivation pour se décider à communiquer l'Évangile est de le contempler avec amour, de s'attarder en ses pages et de le lire avec le cœur. Si nous l'abordons de cette manière, sa beauté nous surprend et nous séduit chaque fois. Donc, il est urgent de retrouver un esprit contemplatif qui nous permette de redécouvrir chaque jour que nous sommes les dépositaires d'un bien qui humanise, qui aide à mener une vie nouvelle. il n'y a rien de mieux à transmettre aux autres. Nous n'avons rien de mieux à transmettre aux hommes que la présence de Jésus-Christ. Et c'est exactement ce qu'a fait la Vierge Marie. Elle a accueilli cette présence en son cœur, par la foi, en sa chair, par le mystère de l'incarnation, et elle nous l'a communiqué. De même, Marie a reçu son fils mort, hein, au pied de la croix. Elle a contemplé, c'est-à-dire touché, toutes les plaies du Seigneur Jésus. Et elle a été déchirée par les conséquences du mal et du péché des hommes, hein, puisqu'elle a vécu comme aucune créature humaine ne l'a vécu, la souffrance et la passion de son fils. Voilà pourquoi elle nous apprend aussi à affronter le mal, conséquence de la misère spirituelle et matérielle de nos frères. Voilà pourquoi aussi nous ne devons pas avoir peur, d'après le pape François, de partager la vie des autres, leurs prières et leurs joies, mais aussi leurs peines et leurs souffrances. Et c'est cela qui caractérise l'identité du chrétien et qui est source de joie. Je vous relis encore un bref passage, c'est le numéro 270, où le pape nous invite à ne pas fuir la souffrance. Parfois, nous sommes tentés d'être des chrétiens qui se maintiennent à une prudente distance des plaies du Seigneur. Pourtant, Jésus veut que nous touchions la misère humaine, la chair souffrante des autres. Il attend que nous renoncions à chercher ces abris personnels ou communautaires qui nous permettent de nous garder distants du cœur des drames humains, afin d'accepter vraiment d'entrer en contact avec l'existence concrète des autres et de connaître la force de la tendresse. Quand nous le faisons, notre vie devient toujours merveilleuse et nous vivons l'expérience intense d'être un peuple, l'expérience d'appartenir à un peuple. Eh bien, si la Vierge Marie est mère de l'Église, c'est justement parce qu'elle est mère de ce peuple nouveau qui a été constitué par le sang du Christ et qui, à l'intérieur même de ce peuple, eh bien, cherche à porter les souffrances et les misères les uns des autres. Marie est donc toute consacrée à son Fils et Jésus est sauveur à 100%. Et pour nous, il ne s'agit pas d'être chrétien d'un moment par enthousiasme, puisque le baptême occupe toute notre vie et nous apprend à témoigner d'une vie vraiment nouvelle. Encore un petit passage du pape François, c'est le numéro 273. La mission au cœur du peuple n'est ni une partie de ma vie, ni un ornement que je peux quitter, ni un appendice, ni un moment de l'existence. Elle est quelque chose que je ne peux pas arracher de mon être si je ne veux pas me détruire. Je suis, du verbe être, je suis une mission sur cette terre, et pour cela je suis dans ce monde. Je dois reconnaître que je suis comme marqué au feu par cette mission, afin d'éclairer, de bénir, de vivifier, de soulager, de guérir, de libérer. Là apparaît l'infirmière dans l'âme, le professeur dans l'âme, le politique dans l'âme. Ceux qui ont décidé, au fond, d'être avec les autres et pour les autres. Toutefois, si une personne met d'un côté son devoir et de l'autre sa vie privée, tout deviendra triste et elle vivra en cherchant sans cesse des gratifications ou en défendant ses propres intérêts. Elle cessera d'être peuple. Autrement dit, c'est le baptême qui nous rend missionnaires et le baptême, il saisit toute notre vie, toute notre réalité. De même qu'un prêtre est prêtre à 100%, de même qu'un religieux est religieux à 100%, eh bien un chrétien l'est à 100%. Quelles que soient nos activités, quelle que soit notre place dans la société et dans l'Église, quel que soit notre âge, quel que soit notre état de santé, tant que nous sommes sur cette terre, pour cette journée, nous avons encore une mission à accomplir. Et nous pouvons apprendre de la Vierge Marie à être entièrement consacrés à cette mission. Ne serait-ce que par la prière, que par les efforts de conversion, que par la patience aussi que nous sommes appelés à développer lorsque nous sommes atteints dans notre santé, dans nos capacités, dans notre rayonnement, lorsque nous ne sommes pas reconnus autant que nous voudrions l'être, eh bien, sachons que à chaque fois, c'est l'occasion de nous unir un peu plus au Christ. Et enfin, Marie est mère de la nouvelle évangélisation, c'est donc tout à fait la fin du document, puisque, et c'est la dernière mention qui est faite d'elle dans les Écritures saintes, dans les Actes des apôtres, où justement Saint Luc nous décrit la première communauté chrétienne attendant le don du Saint-Esprit, donc la communauté des disciples réunie autour de Marie. Alors elle nous a été donnée comme mère par Jésus à la croix, et c'est ainsi que Jésus achève sa mission. Et voilà pourquoi Marie nous apprend à conserver Jésus dans nos cœurs par la foi. D'où d'ailleurs l'importance des sanctuaires de la Vierge Marie qui ont une telle importance pour le peuple chrétien. Et ce que le pape dit, il le dit riche de toute son expérience de l'Amérique latine, où, comme nous savons, les peuples d'Amérique latine sont des peuples qui ont une tendresse toute particulière pour la Vierge Marie, et cela reste très lié à des sanctuaires, hein, qui sont comme les poumons spirituels de l'Amérique latine. Et voilà ce que la conclusion du pape, par les différentes invocations mariales, comme les litanies que nous avons chantées hier pendant la procession, liées généralement au sanctuaire, la Vierge Marie partage l'histoire de chaque peuple qui a reçu l'Évangile. Bien entendu, le peuple de France, le peuple haut-marnais, et fait désormais partie de son identité historique. Beaucoup de parents chrétiens demandent le baptême de leurs enfants dans un sanctuaire marial, manifestant ainsi leur foi en l'action maternelle de Marie qui engendre de nouveaux enfants à Dieu. Dans les sanctuaires, on peut percevoir, donc, à Notre-Dame-des-Bois, comment Marie réunit autour d'elle des enfants qui, avec bien des efforts, marchent en pèlerin pour la voir et se laisser contempler par elle. Là, ils trouvent la force de Dieu pour supporter leurs souffrances et les fatigues de la vie. Comme à San Juan Diego, Marie leur donne la caresse de sa consolation maternelle et leur murmure « Que ton cœur ne se trouble pas, ne suis-je pas là, moi, ta mère ?» Voilà pourquoi eh bien, je vous propose de terminer cette méditation par la prière que le pape François adresse à la Vierge Marie à la fin de son exhortation apostolique. Nous pouvons nous mettre debout. Vierge et Mère Marie, toi qui, mue par l'Esprit, as accueilli le Verbe de la vie dans la profondeur de ta foi humble, totalement abandonné à l'Éternel, aide-nous à dire notre oui dans l'urgence, plus que jamais pressante, de faire retentir la bonne nouvelle de Jésus. Toi, rempli de la présence du Christ, tu as porté la joie à Jean-Baptiste, le faisant exulter dans le sein de sa mère. Toi, tressaillant de joie, tu as chanté les merveilles du Seigneur. Toi qui es resté ferme près de la croix avec une foi inébranlable et as reçu la joyeuse consolation de la résurrection, tu as réuni les disciples dans l'attente de l'Esprit afin que naisse l'Église évangélisatrice. Obtiens-nous maintenant une nouvelle ardeur de ressusciter pour porter à tous l'Évangile de la vie qui triomphe de la mort. Donne-nous la sainte audace de chercher de nouvelles voies pour que parvienne à tous le don de la beauté qui ne se ternit pas. Toi, Vierge de l'écoute et de la contemplation, Mère du bel amour, épouse des noces éternelles, intercède pour l'Église dont tu es l'icône très pure, afin qu'elle ne s'enferme jamais et jamais ne s'arrête dans sa passion pour instaurer le royaume. Étoile de la nouvelle évangélisation, aide-nous à rayonner par le témoignage de la communion, du service, de la foi ardente et généreuse, de la justice et de l'amour pour les pauvres, pour que la joie de l'Évangile parvienne jusqu'aux confins de la terre et qu'aucune périphérie ne soit privée de sa lumière. Mère de l'Évangile vivant, source de joie pour les petits, prie pour nous. Amen. Alléluia.